Comment s'alimenter pendant une course? Quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre en place et comment s'entraîner à bien se ravitailler? C'est notre discussion avec Bruno Obi. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons une nouvelle fois à la rencontre de Bruno Obi. J'ai déjà reçu Bruno plusieurs fois dans son podcast et dans Kilomètre 42, athlète et entraîneur très expérimenté. Il est aussi un très bon pédagogue et toujours dans la recherche de méthodes pour progresser et entraîner. Et cette fois, nous l'avons invité pour parler de ravitaillement pendant l'entraînement et les courses. Un sujet complexe mais tellement important car il a un impact direct sur notre performance puis sur notre récupération. Avec Bruno, nous avons discuté de ses stratégies pour lui et ses athlètes, pourquoi il part en autonomie complète sur ses courses, pourquoi et comment s'entraîner à boire et manger, y compris sur le plan logistique et matériel, car oui, le ravitaillement en course est aussi une question matérielle. Quels sont les aliments à prendre en course et à l'entraînement et pourquoi les deux sont liés, la stratégie de ravitaillement sur des courses comme le semi, le marathon et bien au-delà. Et pourquoi marcher est aussi une excellente stratégie pour mieux s'alimenter. On a aussi parlé de la psychologie autour des ravitaillements, pourquoi des moments on a envie de certains ravitaillements et pas d'autres, et pourquoi il faut varier les ravitaillements qu'on emporte avec nous. Et comme toujours, Bruno nous partage son expérience, mais aussi plein de petites anecdotes qui vous feront probablement sourire, et qui montrent aussi l'évolution importante de nos connaissances dans ce domaine de l'alimentation sportive. Allez, c'est parti. Bonjour Bruno.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, super.
Oh là là, quelle belle voix posée, comme ça, nickel et tout. En plus, aujourd'hui, on va parler sérieux, on va parler d'un sujet, nutrition, en course.
Ouais.
Comment on gère ça? Alors, on commence un petit peu à en parler juste avant, là, d'enregistrer, bon, parce que les gens le savent qu'on parle un petit peu avant. On disait que c'est un domaine qui a quand même évolué, qui est source de questionnement, d'interrogation chez beaucoup de gens. Mais même les gens au plus haut niveau, et toi, le plus haut niveau, tu le connais, parce que tu as été au plus haut niveau, tu as entraîné beaucoup de gens, etc. Comment tu expliques qu'il y ait autant de difficultés à gérer la nutrition, notamment en course, mais au sens global, pour des sportifs?
Mais en fait, nous, enfin moi et les athlètes avec qui j'ai fait du sport de haut niveau, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'on faisait 100 km, on faisait 24 heures, donc ça fait partie intégrante de la performance. Je dis toujours, un 100 km, c'est un peu comme si on voulait aller de Paris à Marseille sans faire le plein de la voiture. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous, on avait cette obligation de s'intéresser à la nutrition, de savoir ce qu'on mettait dans nos bidons, comment on faisait. Et donc c'est un sujet qui très vite m'a intéressé, aussi pour des raisons qui vont bien au-delà d'ailleurs de la compétition et du sport. Et donc voilà, c'était un sujet incontournable. Mais pour beaucoup de sportifs de haut niveau, tant qu'on n'atteint pas le marathon, la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, c'est des sujets qui ne les intéressent pas. Et ça se comprend parce que la durée d'effort qui est la leur, quand un Kipchoge ou quand un Félix Bourg se lance sur un semi-marathon, ça dure une heure. Donc une heure, toi et moi, quand on part une heure, on ne va pas s'alimenter, on ne va pas se nourrir, on ne va pas forcément s'hydrater. Ça passe.
Oui, même d'ailleurs, je me rappelle, avec Thomas Laurent Blanchet, on avait parlé, hein, qui était champion du monde de trail et tout, qui disait, en dessous d'une heure, on part à poil, pas d'eau, pas à boire, pas à manger, etc., parce que ça passe. Et je rappelle souvent cette anecdote, hein, d'ailleurs, on parlait de la tentative de marathon de Kipchoge en moins de deux heures. Sur la première tentative, son coéquipier, qui est champion du monde de semi, se plante à chaque fois au passage marathon, parce que tout simplement, il ne sait pas boire ni manger en courant, il n'a pas cette habitude-là, il n'a pas ces réflexes-là, et tout d'un coup... Pouf, ça s'écroule, tout s'écroule en vitesse. Alors bien sûr, pour lui, c'est peut-être moins visible que pour nous par rapport à certaines allures, quoique il était très loin des temps prévus. Ce qui montre quand même, c'est une difficulté, même pour des athlètes de très très haut niveau. Et je me rappelle, on a parlé avec Félix Bourg, que tu as cité, qui avait beaucoup de progrès à faire, il l'avait dit, hein, qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Et quand on regarde les derniers marathons qui ont été courus, il y a beaucoup d'athlètes qui ont coincé sur ces distances-là et qui, a priori, ça serait aussi sur ces types de problématiques.
Ouais, c'est ça. Et alors, on en reparlera sans doute après, mais non seulement il faut avoir conscience de ça, mais si on ne le travaille pas à l'entraînement, c'est-à-dire que si on se dit « Ah non, non, mais moi, je n'ai pas besoin de boire, ce n'est pas nécessaire. Mais le jour de la course, je le ferai. » Ben non, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a réellement une entraînabilité, j'aime bien ce terme-là, il y a une entraînabilité du système digestif. Ouais. Et on ne se met pas comme ça à manger, à boire, à s'hydrater par l'opération du Saint-Esprit, juste parce qu'on a décidé de le faire le jour de la course. Et ça, c'est important de le dire à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent.
Ouais. D'ailleurs, on a je mettrai les liens vers deux anciens épisodes avec Mathieu Blanchard et avec Adrien Leroux, où vous avez expliqué justement qu'eux, ils s'entraînaient vraiment sur ces points spécifiques. Alors notamment, par exemple, sur du trail avant l'UTMB, l'histoire, c'était de dire, je sais que je vais consommer à peu près tant de glucides à l'heure. Calcul très ingénieur, hein. Mais on en parlera justement de comment on faisait calcul, mais c'est l'approche Blanchard qui est très ingénieur, hein. Donc lui, son truc, c'est je vais consommer tant, j'ai besoin de manger tant, ça va faire tant, je vais charger tant, etc. Donc dans mon ventre, ça fait tant. Et là, tu dis, t'as rien mangé tout ça? Oui, mais parce que je me suis entraîné. Et là, il avait très bien dit.
C'est ça.
Et puis, Adrien Leroux, qui est quand même, alors qui a gagné je ne sais pas combien de courses cette année sur triathlon, qui a même gagné un semi et tout, tu vois, alors que c'est un triathlète, qui va jusqu'au championnat du monde et tout maintenant, qui disait, sur une course que tu connais maintenant, l'Ambraman, on en avait parlé la dernière fois, qui est, mais sur d'autres courses, qu'ils repéraient à l'avance quels étaient les fournisseurs des boissons d'effort, des encas sur les courses, etc. Et que, en fait, en fonction de ça, eh ben, ils s'entraînaient avec ces produits-là. Donc l'entraînabilité, et j'ai eu un exemple sur Kilomètre 42 d'ailleurs, de quelqu'un, un épisode, aussi sur un Ironman, il sait que telle marque est fournisseur officiel de l'Ironman, et donc toute la préparation, il a fait avec ce produit-là pour être sûr de l'avoir. Donc ce qui veut dire que chez certains, c'est quand même une stratégie qui est très réfléchie, cette histoire-là, parce que bah, ils en ont sûrement vu les... surtout sur des distances, bon, sur l'Enduroman, toi qui, pas l'Enduroman, l'Ambraman que tu connais bien. Bon, l'Enduroman c'est encore pire, mais sur l'Ambraman, sur d'Ironman et tout, on est sur des telles distances que de toute façon on sait, c'est comme tu dis, on peut pas partir à poil. Il y a un moment donné, on sait qu'il va falloir mettre du carburant, quoi.
Exactement, c'est ça. Et moi, par exemple, ma stratégie, comme je ne sais pas ou je n'ai pas envie de tester ou d'essayer les marques qui sont proposées sur les ravitaillements, je pars en autonomie complète. Je m'arrange toujours pour que les produits que je connais, que je pratique au quotidien, voilà, mes gels Happy Run, les boissons que j'ai l'habitude de prendre, je les emmène avec moi et il n'y a pas de souci. Je sais que je vais avoir ce que j'ai besoin pour mon effort.
Alors, ça, c'est intéressant, tu vois, parce que, par exemple, même sur une course type... on va dire 100 km de Millau. Toi, t'es le course que tu connais tellement bien, qui vient de se courir. Bon, on enregistre là le 5 octobre, ça s'est couru ce week-end. Hein,
ouais, c'est ça.
Je sais pas, tes athlètes, j'ai vu le message que tu leur envoyais d'ailleurs. C'était magnifique, t'as publié ça sur Facebook. Il faisait chaud, il y a eu des défaillances. Certains qui écoutent le podcast se sont trouvés vraiment pas très bien, etc. Mais même sur une course comme ça, t'as amené tout ton truc. Comment tu gérais ça en fait?
Oui, c'est ça. J'amenais tout mon truc. Alors, j'ai la preuve en image. Hein. Il suffit de taper. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut taper sur un moteur de recherche, mais il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube. Il y a le reportage de Stade 2 et on voit. Hein, mon épouse Patricia qui prépare les bidons. Tout est prévu à l'avance. J'ai mes bidons. C'est la marque que j'utilise à l'époque. Et hors de question, je ne me suis pas arrêté une seule fois sur les ravitaillements à Millau. Pas une seule fois.
D'accord.
Et je n'ai pas utilisé du tout ce qu'il mettait à disposition. Je ne dis pas que ce n'était pas bien, hein, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, j'avais ma logique, ma stratégie. Tout s'est fait en allant.
Ouais, tu es rentable pour eux, là.
C'est ça. Je ne coûte pas cher, moi. Je ne coûte pas cher au niveau des ravitaillements parce que j'emmène tout sur moi.
Tu payes le dossard et tu coûterais un ravitaillement, c'est cool. Bon, sur le 24 heures, on peut le dire aussi, la particularité du 24 heures, c'est que comme tu repasses toujours à ta table, tu n'as pas cette histoire de transport. Bon, sur le 100 km, tu as quelqu'un qui peut te suivre à vélo, donc puis tu as aussi des points de passage où tu peux peut-être gérer les choses. Mais c'est vrai que les questions se poseraient. Tu vois, j'ai eu une invitée il n'y a pas longtemps sur, comment ça s'appelle, par exemple, sur l'UTMB. Où il y a des nombreux ravitaux, il y a des sacs, des zones de délestage où tu peux avoir ton propre sac, donc tu peux aller récupérer des choses. Mais c'est vrai que les gens vont dire, oui, mais moi je pars pour 100 km, je ne sais pas combien, si je prends tout, ça va m'alourdir. Pour avoir la tentation, ou en tout cas de se dire, est-ce que je dois vraiment tout emporter, comment je peux gérer ça aussi, qui est une autre question aussi de logistique pour éviter de peut-être se charger, quoi.
Oui, complètement. Là, c'est vrai que sur un exemple comme l'UTMB, le Grand Raid de la Réunion, enfin les 100 miles, hein, puisque c'est un peu le format maintenant qui est un petit peu le format de référence, c'est pas possible de partir avec tout sur soi, clairement, c'est impossible. Sauf si on a quelqu'un, effectivement, à disposition qui va aller. Mais il faut aussi préciser que ce genre de stratégie et ce genre de confort d'avoir quelqu'un avec soi, c'est pas réservé à tout le monde. Parce que pour aller de point en point, c'est un casse-tête incroyable. C'est-à-dire qu'il y a que seuls quelques athlètes de haut niveau qui ont leur staff, qui ont leur compagne et qui ont organisé tout ça peuvent le faire. Mais 99% des athlètes n'ont pas accès, n'ont même pas accès à quelqu'un qui puisse les suivre régulièrement. C'est super compliqué d'aller de point en point de ravitaillement comme ça. C'est compliqué. Et les routes sont bloquées. Enfin, c'est presque impossible.
Oui, alors je renvoie sur l'épisode que j'ai fait avec Alix dans Kilomètre 42 qui a justement fait l'UTMB et qui expliquait, elle était suivie par plusieurs personnes, etc. Et en plus, il y a des temps de, tu peux pas rentrer trop tôt dans la zone, faut surveiller, il y avait la circulation, il y a tout un tas de choses. Donc elle a prouvé qu'elle peut le faire, hein, parce qu'elle n'est pas du tout professionnelle, mais c'est vrai qu'elle disait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui finalement doivent s'appuyer sur la logistique de la course et puis compter aussi sur ce qu'ils vont mettre sur le sac de délestage sur certains points pour peut-être en prendre au fur et à mesure. Bon, après, il y a des cas particuliers de certaines courses, mais là, on ne va pas en parler parce qu'on pourrait parler des courses type Marathon des Sables où là, c'est le concept même de l'autonomie totale. Mais là, on est dans un autre type d'aventure encore et c'est encore autre chose. Mais là, on est sur des formats particuliers. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens, parce que tout le monde ne fait pas non plus du 100 miles, tout le monde ne va pas vouloir avoir envie de dépasser ces zones-là. Mais en fait, on va dire à partir de quel... Alors, je ne sais pas si on va parler en distance. Moi, je parlerai plutôt en temps. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi. À partir de combien de temps, c'est quelque chose qui devient crucial de prévoir ce qu'on va manger pendant une course, pendant un effort, ou même pendant une sortie longue, hein, parce que sur l'entraînement, etc., parce que tout ça, c'est lié.
Oui, tu as tout à fait raison de parler en termes de durée d'effort, parce qu'en en kilomètres, ça ne veut rien dire. Kipchoge met 2 heures pour faire un marathon, ce n'est pas la même logique. Ni la même logistique que quelqu'un qui va faire en 4 heures. D'ailleurs, moi, ce que je dis souvent, c'est que quelqu'un, la logique de Kipchoge sur un marathon, c'est la logique d'un coureur sur un semi-marathon en 2 heures. C'est la même chose, c'est la même durée d'effort, c'est les mêmes sorties longues, etc., etc., etc. Donc, je dirais qu'à partir d'une heure et quart, là, on commence vraiment à être un peu... Alors, tout dépend, évidemment, du contexte et de la chaleur, etc., etc. Mais je pense qu'à partir d'une heure et quart, une heure et demie, c'est bien de commencer à s'habituer, à prendre quelque chose avec soi. Voilà, il y a plein de choses maintenant hein, au niveau matériel qui permettent. Avant, il y avait pas grand chose. On avait la ceinture porte-bidon. Maintenant, il y a des gilets d'hydratation. Bah d'ailleurs, Apirun propose un gilet d'hydratation qui est très bien fait avec des gourdes souples. Donc, voilà, on peut très facilement emmener avec soi maintenant de quoi boire, de quoi s'hydrater au minimum. Hein. Manger, c'est encore autre chose. Dès que la sortie commence à faire 1h15 à 1h30, et puis ça permet surtout, ce que je disais tout à l'heure, de travailler l'entraînabilité et de s'habituer à boire. Parce qu'en fait, la fonction crée l'organe, hein, j'aime bien cette phrase aussi. Plus on boit, plus on va avoir envie de boire et plus on sera en capacité de boire. Donc, alors après, oui, il y a une espèce de truc là, on dit oui, mais... les Kenyans, ils boivent pas. Si on s'habitue à pas boire pendant des heures et des heures, on va s'habituer à courir. Mais non, c'est pas vrai. L'organisme, il est fait pour boire. On peut pas résister à la déshydratation. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours aux gens que je conseille. La lutte contre la déshydratation est un combat perdu d'avance. Jamais on arrivera à se réhydrater autant que ce qu'on va perdre, et surtout en conditions de chaleur excessive. Hein. C'est d'ailleurs ce que je disais pour les 100 km de Mio. Donc c'est un combat qui est perdu d'avance. Donc on va reculer les chances. Il faut absolument boire tout de suite, tout le temps, s'habituer et avoir ce réflexe.
Alors tu sais, j'en ai fait l'expérience pas plus tard que lundi. Donc là, on est jeudi. Donc tu vois, il y a 4 jours, je suis parti en vélo et je me suis rendu compte, au bout de 15 minutes, j'ai oublié mon bidon.
Ah ouais.
Tu vois, ça fait un mois que j'ai pas roulé en vélo et j'ai oublié mon bidon. Et parce que moi, je pars pour un petit truc, je me dis, allez, je vais faire 50 km. Enfin, tu vois, c'est pour mon anniversaire, 47 ans, 47 km. Je me dis, bon, allez. Puis bon, ça boit le début octobre. Il faisait un gros coup de chaud et tout. Je n'ai pas pu rentrer sans m'arrêter, boire un coup. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'une heure et quelques, je commençais à chercher les fontaines, etc. Donc j'ai pris mes petites applications, je dis, il faut trouver une fontaine. Là, je sais qu'il y a une boulangerie fermée. Je dis, mais c'est pas possible. Hop, là, je sais qu'il y a une autre boulangerie. Hop, là aussi, c'était fermé. Ouais, c'est un lundi, boulangerie fermée. Et finalement.
Les cimetières.
Alors, cimetières, il y en a un qui était fermé, l'autre, le truc était fermé aussi. L'eau était pas ouverte. Et finalement, au bout d'un moment, et tu sais, j'étais plus qu'à 5 km de la maison. Et je dis, tant pis, je m'arrête. Je bois un coup parce que je me disais, je suis sec de sec. Et pourtant, j'ai roulé 2 heures et quelques, tu vois, dans le truc comme ça. Donc, c'est même pas. C'est le temps, tu vois, d'un semi, hein, on va dire. Moi, je mets moins sur le semi, mais on va dire pour semi un petit peu plus. Bah, finalement, au bout de ce temps de semi, j'étais quand même en sec. Donc, c'est vrai. On a beau faire. Et en vélo, on peut dire, on a l'air qui passe, etc. Moi, je sens, tu vois, j'ai moins besoin de boire en vélo qu'en courant, j'ai l'impression. Et pourtant, ouais, au bout d'un moment, c'était bouche pâteuse, je respirais plus et tout. Et donc, première boulangerie ouverte, je dis, allez, je m'arrête, je trouverai quelque chose. Donc là-dessus, c'est clair que c'est vraiment un combat perdu d'avance. On perd combien avec la déshydratation en performance?
Ah, bonne question. J'ai pas révisé. J'ai pas mes fiches sous les yeux. En déshydratation, c'est-à-dire combien de...
On perd quoi? On perd en performance. On perdrait quoi? J'ai lu un truc comme 20% de déshydratation.
Ah, en performance. Je pensais que tu parlais de quantité les pertes, les pertes sudorales. Alors, on a coutume de dire que oui, 1% de perte d'eau correspond à une perte de 10% des capacités physiques. Mais je crois que c'est un peu remis en cause. Mais voilà, c'est le chiffre qui circule. Donc, on dit aux gens, mais vous rendez compte, si vous perdez 2% de votre poids, et ben vous allez perdre l'équivalent de 20% de vos capacités. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. C'est énorme.
2% de poids, les gens n'ont pas l'impression que ça fasse beaucoup. C'est une petite marge, mais en transpiration, ça me paraît comme vite atteint.
Ouais, ça va vite. Histoire, hein. Ça va vite. Après, c'est facile à mesurer. On part courir. On se pèse avant. On part courir ou on part rouler. On part faire une séance d'entraînement. On monte sur la balance. On ne s'hydrate pas. Donc, évidemment, on va faire 3 heures. On ne s'hydrate pas pendant cette durée. Ce qui est simple à faire, c'est une heure de footing. Comme ça, on a les pertes sudorales en une heure. On rentre chez soi et on se pèse à nouveau. On aura les quantités de pertes pour chacun, puisqu'elles sont variables d'un individu à l'autre. Certains peuvent faire 500, 600, 700. Et là, on se rend compte que les pertes sont importantes et qu'il faut justement compenser. Moi, j'ai fait ce test il y a 2 ans. Dans le cadre d'un suivi nutritionnel, je crois que j'avais perdu 600 ml et il ne faisait pas si chaud que ça.
600 ml en une heure.
Ouais, j'ai des pertes qui sont assez importantes. J'étais à 600 ml de perte d'eau pendant mon footing. Et vraiment, hein, ce n'était pas des conditions de chaleur extrêmes. Donc ça peut aller bien au-delà. D'ailleurs, on recommande, enfin, les gens, mais moi, je n'ai rien inventé, hein, de boire entre 500 ml et 1 litre, c'est ce que j'avais mis dans ma publication, hein, entre 500 ml et 1 litre par heure. Donc 500 ml, un bidon cycliste, hein, c'est facile à vérifier, à chaque heure, c'est le minimum. Et moi, quand je dis ça à certaines personnes, ils me regardent avec des yeux effarés, ils me disent mais c'est pas possible, je n'y arriverai pas. Mais si, c'est vraiment facile. Et quand on s'entraîne, on y arrive, sans aucun problème.
Ouais. J'étais en train d'essayer de calculer combien, mais en fait 500 ou 600 millilitres, alors je te vais pas demander ton poids, mais on est pas loin du fameux pourcentage, 60, en fait
65 kilos, donc voilà, on est dans les donc ça fait quoi, ça fait 1%,
ouais, on est dans ce fameux pourcentage, hein, qu'en une heure on peut, donc la perte de performance, on peut vite la voir que ça va relativement vite dans ces cadres là mais c'est vrai que cette histoire-là, finalement, on peut s'habituer à boire régulièrement. Mais il faut, je crois qu'il y a une habitude. Alors après, il y a des stratégies, je pense, parce que certains, il faut peut-être leur rappeler au départ avant qu'on commence à être sec.
Il faut
un peu le rappeler, un petit peu se mettre des tactiques, parce que des fois, on attend d'avoir soif, c'est un peu tard. Je sais qu'il y en a qui mettent des alertes sur les montres. Hein. Il y a plein de monde qui ont des systèmes d'alerte hydratation, nutrition, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est des astuces que tu fais utiliser à tes athlètes ou...
Alors moi, ce que je fais faire pour des gens qui font en dessous de 3 heures au marathon, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire un marathon en dessous de 3 heures, 3h30, au-dessus pardon, de 3h, 3h30, en dessous on est dans une course en continu, mais au-dessus de 3h30, moi je recommande aux gens de faire une alternance course-marche prévue et programmée, et sur 100 km également. Donc je dirais au-dessus de 10 heures. Donc à ces gens-là, je leur demande de faire toutes les 10 minutes une pause de 40-45 secondes. C'est de l'alternance course-marche, hein, la méthode, ce qu'on appelle la méthode Cyrano, hein, l'alternance course-marche qui est programmée pour que la marche ne soit pas subie, mais qu'elle soit choisie. Et je recommande aux gens, systématiquement, pendant ces 45 secondes, de boire. Donc en fait, toutes les 10 minutes, les gens vont boire et vont avoir le réflexe de boire. C'est plus compliqué, effectivement, quand c'est de la course en continu, mais comme tu le dis très justement, une alerte, ou tous les 2 km, ou tous les 1 km, ou toutes les 10 minutes, voilà, une alerte sur la montre, pour rappeler la nécessité de boire. Moi, je disais à mes suiveurs, quand je faisais les 100 km où j'avais des suiveurs, je disais à mes suiveurs, toutes les 10 minutes, tu me tends le bidon, et même à la fin, quand j'en voudrais plus, tu ne me demandes pas mon avis, tu me tends le bidon et tu m'obliges à boire, parce qu'à la fin, on en a un peu marre de tout, on n'est pas forcément très, très lucide ni très sympa. Donc voilà, c'était une obligation. Et ça me libérait mentalement de ce besoin d'y penser ou d'avoir la montre qui bip toutes les 10 minutes. Mais c'est important, ouais, d'avoir des rappels et de respecter le protocole dès le début de la course. On n'attend pas d'avoir soif, parce que ce qu'on dit aussi aux gens, comme repère, quand vous avez soif, il est déjà trop tard. La déshydratation est déjà enclenchée. Et là, du coup, la bataille, elle est vraiment perdue.
Ouais, mais tu vois, moi, je suis assez fervent aussi de la méthode de l'alternance course-marche, etc., que j'ai utilisé d'ailleurs sur mon dernier semi-marathon, ce qui ne m'a pas empêché d'être 3 ou 4 minutes plus rapide que le précédent. Donc, c'est comme quoi, ça marche pas mal. Hein.
Cyrano, le fameux Cyrano, qui s'appelait Jean-Marc Dowell, qui s'appelle Jean-Marc Dowell, et s'il nous écoute, je lui fais un coucou. Donc, il était de Bergerac, et à l'époque, avant les réseaux sociaux, il y avait les forums internet, et donc, son pseudo, c'était Cyrano. Donc, Jean-Marc, lui, il avait vraiment bien formalisé cette alternance course-marche. C'était un des meneurs d'allure de mon équipe à Millau. Il a fait 9h30 au 100 km comme ça, en alternant course-marche, 9h30 au 100 km. Ouais. Et voilà. Et Serge Cottreau, par exemple, recommandait déjà l'alternance course-marche pour des marathons, même en dessous de 3 heures. Ouais. Déjà, Serge disait, n'hésitez pas, arrêtez-vous à chaque ravitaillement, prenez 15 ou 20 secondes pour boire tranquillement. Et voilà. Et moi, mes premiers marathons, je les ai fait comme ça. Et ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin on peut faire de l'alternance course-marche, comme tu le dis, à des niveaux de performance qui sont élevés.
Mais tu sais même que j'ai lu le livre de Jeff Galloway. Qui est sur la méthode, cette méthode-là, hein, qui n'appelle pas Cyrano parce que lui, il a mis son propre nom. Mais Jeff Galloway, il est coach, il a quoi, 72, 73 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment il a fait de course, etc. Ouais. Et il donne des plans, tardance course-marche, pour des gens qui courent le marathon, mais en moins de 2h30. C'est-à-dire que je crois qu'il a même un 2h30 vite dans ses athlètes. Un truc dans le genre-là, qui a utilisé par certains moments un peu de marche sur certains aspects. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont jamais testé ou qui ont déjà essayé de tester, vous constaterez quand même que boire en marchant, c'est quand même beaucoup plus facile que d'essayer de boire en courant. Hein.
Mais bien sûr, c'est un tel confort. C'est un tel confort que pourquoi se prendre la tête à vouloir absolument choper un gobelet, on va en foutre la moitié par terre, on va avaler de travers. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est franchement. Alors, moi, sur marathon, je serais même allé jusqu'à 15 à l'heure. C'est-à-dire, on peut faire 2h48 en haltant en course marche. Donc, tu vois, tu me prouves qu'on peut même aller encore plus vite. Mais ça, j'en suis convaincu.
Et tu sais que ça surprend quand même parce que peut-être que les gens n'osent pas le faire. Il y a peut-être des gens qui disent non, mais il faut que je cours tout le temps. Parce que je connais des gens qui n'osent pas marcher. Alors, on a parlé avec Cécile Bertin qui a dit oui, mais une fois qu'on s'est mis dans la tête qu'on va marcher, on ne le subit plus. Donc c'est vraiment un entraînement et tout. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Mm-hmm. Et je sais que moi, tu sais, ma dernière course officielle, c'était la IOTA à Vichy. Et il y avait un ravitaillement où 3e kilomètre ou 4e kilomètre ou 5e kilomètre, c'est de la course à pied. Et je voyais tous qui couraient, mais même des gens qui couraient. Tu vois, on avait une limite de temps, il fallait absolument faire les kilométrages avant un certain temps. Mais moi, je marchais pour boire un coup et tout, les gens. Et même les gens du ravitaillement me regardaient, me disaient, mais il faut courir là. Je dis, non, mais je bois, je repartirai. Et c'est vrai qu'en général, ça ratait pas. C'est-à-dire que celui qui avait essayé de boire en courant devant, il en a mis un peu partout, etc. Et il avançait pas beaucoup plus vite. Et je finissais un petit peu souvent par le rattraper. En ayant eu le temps de boire, ça passe pas de traviole en plus, on n'en met pas partout, etc. Surtout si on prend des trucs qui collent un peu, avec des boissons d'effort qui collent un peu, c'est toujours plus agréable que d'essayer d'avoir tout ça. Et je me suis même arrêté pour dire, pour l'anecdote, et ça fait rigoler les gens, j'avais fait tomber mon gobelet à côté de la poubelle, et les gens m'ont dit non, laissez, on va ramasser. Je dis non, je vais le ramasser, j'ai pris le temps, je suis reparti, et ça m'a pas empêché de finir dans le temps imparti, tu vois, que j'avais pour ce moment-là. Donc pour ceux qui se disent, j'ai pas le droit de marcher sur des courses comme ça, tu viens de le prouver avec des illustres coureurs, on vient de l'expliquer, etc. On peut le faire, donc n'hésitez pas à le faire, c'est beaucoup plus confortable. Maintenant, il reste à savoir ce qu'on met dans le verre.
Ouais, c'est ça. Après, oui, je pense qu'il faut vraiment changer de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut avoir un logiciel dans lequel on se dit la marche, c'est pas une honte et ça fait partie de la stratégie. Par contre, ce que je dis toujours aux gens, c'est qu'il faut faire ce calcul. C'est-à-dire que les 40 secondes où je vais ralentir, je les compense en courant plus vite dès le début. C'est-à-dire que je ne vais pas, après le ravitaillement, me piquer un sprint pour rattraper le temps. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut courir un tout petit peu plus vite mais ce n'est pas grand-chose hein, pour compenser 40 secondes de marche. Il faut courir dès le début un tout petit peu plus vite pour avoir ce confort, hein, ce matelas de secondes dans lequel on prend, comme tu le dis, le temps de boire et de profiter de cet instant-là. Sans compter que ça fait redescendre un petit peu la fréquence cardiaque. Ce n'est pas le but premier, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, pensez à l'intégrer dans la vitesse de course réelle.
Ouais, et toujours pour venir sur. Mais un jour, je finirai par faire un épisode, mais j'en ai déjà fait sur Kilomètre 42. Jeff Galloway aussi explique. Donc, ça fait baisser la fréquence cardiaque. On est bien entraîné et la baisse, elle est vraiment nette. Hein. Franchement, en plus, on ne se rend pas compte, mais en 40 secondes, ça descend vraiment très vite quand on a de l'entraînement. Et c'est de ça. Baisser aussi un peu la température quand il fait chaud, la transpiration et tout, le refroidissement du corps, etc. Ce qui, pour ça, qu'il explique que, voilà pourquoi ça marche et que c'est aussi pour ça qu'on est capable de courir plus vite. Moi, j'avais fait un test l'hiver dernier sur un 10 km où je pensais jamais arriver à descendre sous le temps parce que j'étais sous-entraîné. Et en faisant ça, j'étais étonné, mais vraiment, je l'avais fait tranquillement et sur mon marathon aussi, en ayant vraiment une stratégie comme ça, en disant, moi, pour marche. Donc voilà, bon, il faudra qu'on en reparle. Alors, maintenant qu'on a changé de logiciel, on dit voilà, c'est une solution. Qu'est-ce qu'on met dans le verre quand on boit?
Alors, moi, je déconseille de mettre de l'eau, de boire de l'eau, parce que d'abord, pour une raison chimique, hein, une raison d'osmolarité, c'est-à-dire une raison de concentration de la boisson, en fait, il faut que la boisson se rapproche de la concentration du liquide intracellulaire. Donc, en fait, on peut, par exemple, pour être vraiment dans le concret, on peut se noyer, on peut ne pas réussir à s'hydrater, on peut être déshydraté en buvant de l'eau quand il fait, par exemple, très chaud. C'est ce qu'on appelle une hyponatrémie d'effort. Donc, j'ai découvert ça en 2003 au championnat du monde. C'est Karine Herry hein, qui a gagné 9 fois les Templiers, championne de France de 100 km, l'UTMB, le Grand Raid de la Réunion, qui était médecin, hein, mais médecin du sport en plus, qui m'a fait découvrir ce terme barbare que je ne connaissais pas. Donc en 2003, au championnat du monde de 100 km à Taïwan, elle a fait une hyponatrémie d'effort, c'est-à-dire qu'elle a bu beaucoup d'eau, parce qu'il faisait très soif, et en fait l'eau ne passe pas la barrière cellulaire. Donc en fait, il faut absolument mettre une boisson qui soit légèrement sucrée, ni trop ni pas assez, pour que en fait, l'hydratation se fasse bien. Donc une boisson légèrement sucrée, légèrement glucosée, c'est à la fois la certitude qu'elle va bien passer dans l'estomac et qu'elle ne restera pas, et un apport aussi de glucides, puisqu'on a besoin de glucides. Le corps humain a besoin de glucides quand il fait un effort, le cerveau, les poumons, il y a des organes vitaux qui, eux, ont besoin de glucose. Donc, si on ne leur amène pas du glucose pendant l'effort, il va aller chercher là où il y est, dans les réserves, et ces réserves, on ne les aura pas pour courir. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut légèrement sucrer ces boissons à l'effort pour que ça passe mieux, mais aussi pour donner à manger à nos cellules, à notre cerveau, à nos poumons, à nos organes vitaux.
Ouais. On les sale aussi, nos boissons?
Oui, c'est bien que ce soit légèrement qu'il y ait un petit peu de sodium. Donc moi, très honnêtement, je ne m'occupe pas de tout ça, je ne fais pas ma popote. Moi, j'utilise des boissons qui sont bien faites, qui sont faites par des professionnels qui ont réfléchi à ça. Une fois de plus, hein, j'utilise la boisson qui n'est pas sur le marché depuis très longtemps, la boisson Apiron, qui me convient très bien. Moi, j'ai vraiment apprécié la façon dont cette boisson est faite, ni trop sucrée, ni pas assez, pas écœurante. Donc voilà, moi, ça me convient très bien. Et pour ceux qui veulent faire leur propre boisson, après, oui, voilà, il faut peut-être remettre une pincée de sel. Mais il doit y avoir du sodium, un petit peu de sel, parce qu'on perd beaucoup de sel quand on fait des efforts. Et moi, plutôt que de faire quelque chose d'aléatoire, je préfère m'en remettre aux gens qui savent faire et qui sont des professionnels de ça.
Oui, parce qu'après, il y a une question d'équilibre qui n'est pas facile à trouver, hein, sur certaines quantités. Parce que bon, mesurer les pertes en sodium, en plus, c'est pas si simple que ça. Mesurer les pertes d'électrolytes au sens global, j'ai envie de dire, tout le monde, on n'est pas des petits chimistes hein, non plus.
C'est ça.
Donc, on peut faire des calculs, et je sais, parce que si vous cherchez sur Internet, sur YouTube, il y a des recettes avec des calculs savants pour essayer de dire faut tant, etc. Et tout. Alors, sur les boissons, c'est compliqué, mais je trouve que c'est... parce que j'ai fait des épisodes aussi avec des entraîneurs et tout, et j'en reviens à cet épisode avec Mathieu Blanchard et tout, on avait parlé aussi après sur l'alimentation, sur la partie quantité de glucides à ingurgiter dans sur l'heure de course. Et c'est là, après, le grand truc, c'est-à-dire que là, on a parlé de ce qu'on boit. Mais qu'est-ce qu'on mange aussi pendant des courses, pendant des efforts, etc. Là aussi, hein, c'est une sacrée question parce que y a combien de gens qui ont des problèmes entre la digestion, entre les problèmes digestifs, entre ça passe pas très bien, ça remonte, ça descend, c'est j'ai pas assez de force, je prends un mur, etc. On est dans un monde qui pose problème et je pense à tout le monde a eu un problème un jour.
Oui, mais c'est sûr, on a tous rencontré un problème à un moment ou à un autre. Donc, si on veut donner des éléments concrets à ceux qui nous écoutent, donc on a dit tout à l'heure entre 500 millilitres et 1 litre d'eau par heure. Hein, donc, ça, c'est la quantité de liquide. Pour donner un ordre d'idée sur les glucides, Denis Richer parle de 1 gramme de glucides par heure. Donc, on est aux alentours de 60 grammes de glucides par heure.
Oui,
Et
par gramme,
si on
par
fait.
poids, 1 gramme par kilo, pas comment?
Non, c'est 1 gramme par minute,
Ah,
pardon.
par
Donc c'est
minute, pardon.
un gramme par minute, donc c'est 60 grammes de glucides par heure qu'il faudrait apporter à l'organisme. Voilà. Donc, et quand on fait le calcul de tout ce qu'on ingère, et donc c'est ce qu'a fait Mathieu, on s'aperçoit que les 60 grammes, pour les avoir, il faut quand même ingérer pas mal de quantité de glucides. Donc c'est pour ça que c'est important que la boisson le soit, parce que la boisson, ça va apporter 20, 30, 40 grammes de glucides. Et si on arrive à boire 500, 600 millilitres par heure, on va avoir vraiment un apport qui va être intéressant. Donc on peut compléter par d'autres choses, effectivement, et c'est ce que tu disais, par du solide. Mais là encore, on est tous différents et on s'aperçoit que ce qui va pour les uns ne va pas pour les autres. Moi, j'ai connu l'époque, c'était pas la préhistoire, mais c'était la préhistoire de la nutrition quand je suis arrivé en équipe de France de 100 km dans les années 90. Donc, on faisait nos stages avec l'équipe de France de 24 heures où là, on avait des vrais soldats. Hein. C'était des durs au mal. Et donc, la nutrition, c'était un gros mot pour eux. Et je me rappelle de Mohamed Magroun qui mangeait un sandwich avec des merguez pendant son 100 km et pendant son 24 heures. Et
Ah ouais.
voilà, et voilà. Et je me rappelle aussi de Jean-Pierre Guyomard qui disait moi, je mange des nouilles et je mets du gruyère et du jambon. En fait, les coureurs, ils mangeaient un peu ce qu'ils mangeaient d'habitude. Et eux, ils trouvaient normal que ça reparte par où ça vienne, quoi. Ça faisait partie un peu du truc, quoi. Alors, je caricature à peine, c'était ça. Hein. Oui, des fois, ça repart par où c'est venu, mais bon, c'est comme ça, c'est le 24 heures. On a évolué, on a beaucoup évolué, beaucoup, beaucoup évolué. Denis Richer est passé par là, et surtout Anthony Berthoud, parce que Anthony Berthoud, j'ai eu le privilège qu'il m'accompagne sur toute ma fin de carrière en équipe de France de 24 heures. Donc voilà, là, c'était plus structuré, c'était plus rationalisé. On avait des gens qui étaient vraiment des spécialistes de la nutrition, qui ont pu nous apporter des solutions. Et maintenant, on arrive à courir, manger et cumuler tout ça de manière plus structurée, plus organisée, on va dire. Mais alors, il n'y a pas de règle. Hein. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, ben, je parle de moi, mais je ne suis qu'un cas parmi les autres. Je ne pouvais rien ingérer de solide. Donc, c'était compote, c'était soupe, purée très liquide. Évidemment, évidemment pas de jambon. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose de. Pour moi, j'avais besoin que l'aliment soit liquide ou semi-liquide. Je me rappelle aussi de mon premier 100 km à Rognonas, où j'avais rattrapé un gars, j'avais pris un tour, et comme j'étais nouveau dans la discipline, je ne sais plus pourquoi, il m'a dit, ouais, faut y aller, mais faut que tu manges, faut que tu manges. Alors, je lui ai dit, ah bon, faut que je mange. Ouais, man, faut que tu prennes des protéines. Alors, je lui ai dit, les protéines, c'est quoi? Et là, il me dit, ah, tu regardes, tu t'arrêtes au ravitaillement, il y a de la vache qui rit. Donc, moi, le jeune coureur de 100 bornes, le gars était médecin en plus, j'ai pas cherché à comprendre, quoi. Je me suis arrêté, j'ai mangé une vache qui rit. Alors, pub pour la vache qui rit. J'en mange jamais. Même dans ma vie, je ne mange jamais de vache qui rit. Mais là, je pense qu'on m'aurait dit qu'il faut manger. Enfin, bref, j'aurais mangé n'importe quoi. Mais entre le moment où j'ai mangé ma vache qui rit et le moment où elle a fait effet pour apporter des protéines, si tant est qu'il y ait des protéines de qualité dans la vache qui rit, la course était passée depuis longtemps. Donc on était vraiment dans les années 90, c'était la préhistoire de la nutrition sportive. Les chaussures ont énormément évolué, mais alors la nutrition, on a fait des bons incroyables. Il y a des dizaines de marques qui se sont créées. Enfin, l'évolution est incroyable.
Ouais. Et puis c'est vrai qu'en plus il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment le sucre, ceux qui aiment le sel, ceux qui aiment. Parce que moi par exemple sur mon 24 heures, j'avais pris de la compote, enfin de la purée salée, enfin en forme de compote là, comme de la compote mais de la purée quoi. Donc ça existe. Alors j'étais pas très fan du goût. Au bout d'un moment j'en avais marre. Je me suis rabattu sur les saucisses, guêtres saucisses. Mais ce qui me fait rire dans l'exemple que tu donnes, c'est que L'épisode précédent, c'était avec Aude Bazin. Et je lui ai dit, mais en vélo, on peut prendre le cheat meal pendant qu'on roule. Il m'a dit, mais je te le conseille pas quand même. Mais tes gars, là, tu m'as cité, qui mangeaient merguez, saucisses, etc., sandwich pendant leur course, finalement, bah, ils étaient aussi dans ce système-là. Ça paraît totalement hallucinant de dire ça maintenant. Mais il y a des sports dans lesquels on reste là-dessus. Parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de vélo. Pour Aude, je disais, moi, dans le monde du vélo, on a les arrêts boulangerie, on a tous ces trucs-là et tout. Et ça passe, et je dis, mais on a l'impression que tout passe parce que ça se coupe pas, etc. Elle m'a dit, bon, faut se méfier quand même, hein. C'est l'impression qu'on a, mais le système digestif il est pas secoué, mais il travaille quand même pas tant que ça. Donc il y a quand même un truc là-dessus qui a entraîné aussi. Je renvoie sur l'épisode avec Mathieu Blanchard où il disait qu'il s'entraînait à avoir des gros volumes dans le ventre, justement, pour être capable de courir avec ça, pour être capable d'ingurgiter suffisamment de ça. J'ai fait aussi un épisode sur Kilo 350 avec un entraîneur de vélo qui m'annonçait des quantités qui, moi, me semblent énormes parce qu'il me disait on était à 80, 90 grammes, 100 grammes de glucides chez des cyclistes. Ouais. Et mon petit Denis Richer illustré, tu sais, moi, il me dit, enfin, qui n'est pas illustré, mais il me dit qu'au-dessus de 70 grammes, ça oxyde plus, quoi. Qu'au-dessus de 70 grammes, on n'arrive pas, que le corps n'arrive pas. Alors, tu sais, dans ces trucs-là, je me dis, attends, lequel ? Est-ce qu'il y en a un qui en prend trop, que ça ne sert à rien ? Denis Richer, avec la science qu'il a, je me dis, puis on l'a eu, hein, donc il y a un ancien épisode sur le sujet, on avait bien parlé de ça. Je me dis quand même, il y a une espèce de limite, je trouve, d'équilibre à trouver pour chacun. Qui n'est pas simple, hein. Faut vraiment le tester d'entraînement parce que pour ceux qui ne se rendent pas compte, moi il y a des produits où je me suis rendu compte, par exemple, ça veut dire il faut prendre certains sticks, c'est 3 ou 4 sticks dans une heure, par exemple, pour faire 70 grammes. Ce qui n'est pas rien, hein. Ça veut dire que toutes les 10 minutes on mange.
C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire ses calculs, il faut tester, il ne faut pas hésiter à essayer et puis à voir ce que ça donne. Mais ce qu'on sait d'un point de vue, et ça personne ne peut le nier, ce qu'on sait d'un point de vue physiologique, c'est que justement, pendant qu'on fait un effort physique, les organes vitaux sont prioritaires et ensuite, le corps approvisionne les muscles. Mmh. Et donc, les muscles ont besoin d'énergie et cette énergie, cette hydratation, elle est prise aux dépens d'autres organes, dont le système digestif. C'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à bien manger, à bien s'hydrater quand on fait de l'activité physique, parce que le système digestif, il est moins vascularisé. Et donc, il fonctionne moins bien. Et en course à pied, on rajoute les chocs. Et effectivement, ça complique un peu les choses. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je fais des sorties vélo. Alors évidemment, l'intensité n'est pas folle, mais je suis capable de manger un bout de pain avec du jambon et du beurre, ce qui est pour moi quelque chose que, voilà, même dans le quotidien, je vais pas forcément bien le digérer. Mais en vélo, ça passe. D'abord parce qu'on a faim et en plus parce que, voilà, on a moins à subir les chocs. Donc, en fonction du sport, c'est effectivement une stratégie d'hydratation, d'alimentation qui est différente. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se tourner vers des choses qui sont digestes, qui sont faites pour ça. Il y a maintenant des aliments qui sont extrêmement digestes, qui sont bien construits, bien élaborés, et qu'on peut prendre en course, et qui seront vraiment intéressants à prendre et qui apportent aussi de l'énergie.
Ouais.
Je pense aux bars, par exemple, il y a des bars 100%, alors je ne sais pas si on a le droit de citer les marques, il y a des bars qui sont 100% fruits, ce qu'on appelle la raw food, là, qui n'ont pas été cuites, qui sont vraiment naturelles. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de chimie dedans, ça se digère très bien. C'est comme si on mangeait des fruits, sauf que c'est une barre énergétique qui est uniquement composée de fruits avec un peu de pâte d'amande pour faire du lien. Ça se digère très bien. Enfin, moi, je sais qu'en course, quand je mange ces bars-là, les bars gourmises, ça descend tout seul. C'est vraiment, c'est vraiment très bon. Et c'est français en plus. C'est fabriqué à Toulouse.
Et par contre, il y a des trucs, tu vois. Moi, j'ai eu un souci. Alors, je sais pas. Moi, sur les trucs qui se mâchent. Alors, toi, tu dis que tu pouvais pas manger du solide. Mais en courant, notamment, il y a des trucs. Moi, je me rappelle une barre, il y avait des petits bouts d'abricot dedans. Ou même un jour, j'ai cru que j'allais m'étouffer avec une graine de chia, tu vois. Il était un peu grosse là, comme ça, qui reste quoi, un peu coincé, tu vois, qui est un peu désagréable. Bon, ça aussi, ça se teste, hein. Je sais, par exemple, les abricots secs en course, j'ai abandonné le jour où j'ai un entraînement. J'ai dit, ouais, ça me semblait une bonne idée, l'abricot sec, jusqu'au moment où il a fallu le mâcher en courant, où je me suis rendu compte que c'était une mauvaise idée. Mais il y a quand même un truc, tu vois, qui est pas facile. Toi qui as fait des longues, alors 24 heures, etc., c'est la lassitude qu'on peut avoir de certains goûts. Parce qu'il y a un truc, tu vas courir 2 heures, ça passe facile, mais au bout de 4, 5 heures, 6 heures, le truc, il te sort par les... t'en as marre, quoi. Tu peux en avoir marre du goût, avoir de la lassitude, Si tu me dis, je dois manger, alors j'ai dit, allez, on va dire un truc, je dis, 3 barres par heure pendant 24 heures. Pouf, 72 barres.
Ouais, non, mais c'est ça.
À la 20e,
C'est pas possible.
t'en as déjà marre, quoi. C'est pas possible,
Non,
c'est
mais
tout
c'est
ça.
ça. C'est pas possible. C'est pour ça que tous les aliments qui ont un goût le plus neutre possible sont intéressants. Parce que justement, on va pas avoir cette espèce de lassitude du goût qui se répète, pardon. Donc, plus les aliments ont un goût qui est neutre, plus c'est intéressant. Et moins on sent le sucre, et plus c'est intéressant aussi. Donc, il faut qu'il y ait aussi une variété. Et prévoir cette variété, et dès le début aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être saturé en sucre, d'avoir le dégoût du sucre pour prendre du salé. C'est trop tard. C'est trop tard. Donc dès le début, il faut aussi qu'il y ait une alternance entre les goûts. Et puis voilà, manger, c'est se faire plaisir. On est quand même des êtres vivants qui aimons manger aussi pour le plaisir que ça nous procure. Donc pendant une course, ça doit aussi procurer du plaisir. C'est pour ça qu'on dit aux gens des fois, vous allez voir, vous allez vous jeter sur un truc, vous comprenez pas pourquoi vous allez le manger, mais ça va vous faire plaisir. Oui, alors on parle souvent des tuques ou des choses comme ça, ou d'un bout de saucisson. Moi, je peux pas manger de tuque, je peux pas manger de saucisson, je peux pas manger de vache qui rit parce que j'en mange jamais dans mon quotidien, donc je vais pas me jeter là-dessus. Mais ceux qui digèrent très bien tous ces aliments-là parce qu'ils ont l'habitude d'en manger, pourquoi pas si ça fait plaisir et si ça vous permet de repartir dans une bonne dynamique dans votre épreuve. Il n'y a pas de tabou, hein. Allez-y.
Ouais, je pense que c'est important cette histoire de ce qui fait plaisir parce que il y a la fatigue, peur et la lassitude sur des épreuves longues, etc. Et alors, bon, on parle de 24 heures, mais sur l'UTMB, Alix, elle a passé 2 nuits sur les chemins quand même. Donc, il y a un moment, elle se dit, je repars pas. Et c'est même ce qu'elle pense, hein. Elle dit, je repars pas. Et puis, jusqu'au moment où on lui dit, oui, mais t'as vu ton classement quand même. Ah si, je vais repartir. Donc, il y a un moment donné quand même, la machine, il faut la remettre en route. Donc, il y a à dire qu'il y a des pauses. Il y a un moment donné, bah, on peut en avoir marre de bouger, de courir, de pédaler, de tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai vu sur mon gravelman aussi. Hein. Au bout d'un moment, tu te dis. Qu'est-ce que je vais manger pour repartir? Quelqu'un m'a dit un truc, il m'a dit, sur le Gravelman, il m'a dit, n'abandonne pas tant que t'as pas mangé.
Ouais.
Ça, ce truc de. Il me dit, tu trouves un truc à manger, mais n'abandonne pas, ne laisse pas tomber tant que t'as pas mangé, tant que t'as pas trouvé. Sorte de réconfort, je sais pas comment on pourrait l'appeler finalement. C'est un truc qui est plaisir. Est-ce que c'est un truc un peu un interrupteur entre, tiens, ça coupe un peu entre deux phases de la course ou je sais pas quoi. Mais il m'a dit ce truc-là. Et je sais aussi sur mon 24 heures l'an dernier que ça me l'a fait cette histoire en pleine nuit, me dire bah, je fais une bonne pause, je mange un truc. En plus, alors là, peut-être il faut pas le dire, mais ça revient à mille feuilles, c'est mon anniversaire. Et j'étais reparti derrière comme un lapin. Donc c'est bien qu'il y a un truc quand même qui joue. On peut pas dire que c'est pas la digestion, parce que c'est trop. Mais c'est vraiment psychologique, quoi.
Oui, c'est ça, il y a cette espèce de plaisir, de la gratification qu'on a. Après, une fois encore, pour donner des choses concrètes aux gens qui nous écoutent, moi je me rappelle, ma grand-mère, elle me disait toujours mastique. Alors, sans doute que quand j'étais petit, je mangeais trop vite, tu vois, je devais avaler tout. Mais voilà, moi, aux sportifs, coureurs, cyclistes, je leur dis mastiquez. Parce que plus vous allez mastiquer, plus la digestion va commencer déjà dans votre bouche. Voilà, et je ne sais plus quelle phrase, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait rendre liquide l'alimentation solide, et je ne sais plus, enfin j'ai
C'est la
oublié la
médecine
phrase.
chinoise qui dit qu'en fait,
Ouais, voilà.
il faut boire le solide et manger le liquide.
C'est ça, c'est
Voilà.
exactement
Et
ça, voilà.
le petit
Ça, c'est
Anthony
très
Berthoud,
important.
enfin le petit Anthony Berthoud, le petit livre d'Anthony Berthoud, le rappelle dans son livre, parce qu'on l'avait, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, puis j'ai reçu le gros volume qu'il a aussi. Et il le rappelle très bien, c'est l'une de ses premières règles, dans ses règles, on avait parlé, sur le fait de bah, bien mâcher, de prendre le temps, etc., de le faire. Tu as raison de le
C'est
rappeler,
ça.
parce que c'est quelque chose. Et moi, avec les gens qui me posaient des questions, je leur dis, mais en combien de temps tu manges? Et qui me disent, mais je dévore, en fait. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils mangent, en fait. Cavalent tout rond, en plus, des fois. Et donc, c'est un vrai conseil et qui marche alors, d'autant plus en plus en courant, où ça passe mieux, quoi. Ça évite que ça reste coincé, comme je te disais tout à l'heure, mon petit bout d'abricot, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et là encore, il y a une vraie entraînabilité. C'est-à-dire, si on s'habitue à mastiquer, même quand on mange au quotidien, on va le faire de manière automatique. Ça va devenir automatique. Alors que si on se goinfre, voilà, on va avoir. Alors, il y a aussi une notion de physiologie derrière ça. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que le cerveau reçoit l'information qu'il a des aliments à sa disposition, ça prend du temps. Donc, ce temps qu'on a, si on ne prend pas le temps de mâcher et de mastiquer, la sensation de satiété, difficile à dire, je me suis pas planté, elle va arriver à un certain moment. Donc, Le temps que ça arrive, plus on va se goinfrer, plus on va manger, et ça ne changera pas en fait. C'est pas parce qu'on mange beaucoup que la sensation de satiété arrivera plus vite. Donc c'est important de bien mastiquer. Donc, voilà. Donc quand on court, quand on fait un effort, garder les aliments en bouche, bien les écraser, les rendre liquides avant de les ingérer, et ça va vraiment faciliter les choses.
Il y a des sur les gens que tu accompagnes, quand vous réfléchissez aux stratégies comme ça et tout, tu leur dis, vous profitez des sorties pour tester les différents produits, pour voir ce qui pourrait marcher en sucré, en salé, la quantité que vous pouvez manger d'un coup. Enfin, c'est quoi le conseil que tu leur donnes en fait?
Ouais, c'est ça. En fait, je leur dis durant la sortie longue, qui est aussi la sortie spécifique, quand on fait de l'allure spécifique pour améliorer son efficience physiologique, hein, la capacité à courir en dépensant moins d'énergie d'un point de vue mécanique, moi je leur dis, il faut vraiment vous mettre dans les conditions de la course. C'est-à-dire que si on prépare l'UTMB, on va prendre aussi ses bâtons et son sac à dos et on va répéter les gestes de façon à ce que, voilà, pour prendre dans cette poche-là, pour prendre les bâtons, les plier, les replier, tout ça, ça doit devenir automatique pour que le cerveau n'ait plus aucun effort à faire. Par contre, si vous préparez le grand raid de la Réunion, ah ben non, vous ne prenez pas les bâtons. Donc voilà, donc je donne des exemples un peu forcément caricaturaux et extrêmes, mais c'est comme ça que ça marche. Donc sur marathon, reproduisez stricto sensu ce que vous allez rencontrer le jour de la course, que ce soit au niveau des tenues, on met la tenue qu'on aura le jour J, et au niveau des ravitaillements. Donc, on teste les boissons, on teste les barres énergétiques si on en prend, on teste tout de manière à ce que le jour J, il n'y ait aucune place à l'improvisation. On teste, et on essaye, sachant que, comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, jamais on ne reproduira ce qui se passera le jour J quand on est sur des courses de 10, 12, 14, 16 heures, parce qu'on ne s'entraîne pas 10, 12, 14, 16 heures. Donc on ne sait jamais comment l'organisme va réagir. Mais on peut au moins essayer de s'y préparer le mieux possible sur des sorties longues ou très longues.
Mais même d'ailleurs sur marathon, quelqu'un qui n'a jamais fait de marathon, enfin, il n'y a jamais un marathon de préparation, c'est-à-dire qu'on va toujours courir moins, donc il y a toujours une phase dans laquelle on rentre dans l'inconnu. Et à partir de là, d'ailleurs, cet inconnu, il réserve des surprises, hein, parce que le fameux mur, il est dans cette zone d'inconnu, là. Il est toujours placé à cet endroit-là, qui est souvent, et d'ailleurs, le mur, c'est vraiment la conséquence de ces stratégies d'hydratation, d'alimentation, de vitesse, gestion de sa vitesse, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un croisement où entre la vitesse, l'énergie, tout ce qu'on a, il y a un truc qui passe plus, quoi. C'est boum, là ça coupe, tout simplement parce qu'on l'a mal géré. Il y a un truc qu'on a mal géré dans les paramètres.
C'est ça. Alors le mur, hein, j'ai écrit un article sur mon site internet, si ça intéresse les gens. J'ai parlé du mythe du mur, pour reprendre un peu le mythe de la caverne de Platon. C'était le mythe du mur parce que j'expliquais que le mythe du mur, enfin le mur au marathon n'existe pas, sauf pour Eliud Kipchoge ou le gars, le recordman du monde du semi-marathon, parce que eux, ils vont tellement vite. Ils sont, en fait, si on voulait prendre une comparaison avec la voiture, eux, ils sont sur du super carburant. Ils vont tellement vite qu'ils ne sont que sur du super carburant. Donc eux, dès que le mélange glucides-lipides est trop important et va trop sur les lipides, bouf, la vitesse baisse rapidement. C'est des Formule 1, et eux, ils ont besoin de super carburant. Tous les autres coureurs, toi, moi et tous les autres, on est plutôt sur un mélange glucides-lipides. Donc, on n'a pas vraiment cette phase brutale décrite physiologiquement dans ce qu'on appelle le mur, où les réserves de glycogène s'effondrent. Ouais. Ça, nous, ça n'existe pas. Mais par contre, effectivement, les gens, entre le 25e, 30e, il y a un moment où ils se rendent compte que ça ne va pas. Alors, ils disent, j'ai tapé le mur. En fait, ce qu'ils ont tapé surtout, c'est une multitude, une configuration, en fait, une conjonction de problèmes qui s'est ajouté au fur et à mesure, notamment la déshydratation, puisque les gens ne boivent pas 500 ml par heure. Donc la déshydratation, souvent c'est l'absence de préparation musculaire, puisque comme tu le dis très bien, ils ne sont jamais allés trop loin dans les sorties longues. Moi, quand j'entraîne un marathonien, même un néo-marathonien, quand il voit mon programme d'entraînement et qu'il voit les sorties longues, il a souvent peur. Parce que moi, coureur de 100 km et de 24 heures, une sortie de 3 heures, 4 heures, ça ne me fait pas peur dans mon esprit. Un entraîneur de 1500 mètres, puisque c'est aussi un peu la thématique de ce podcast, et c'est les entraîneurs et l'alimentation. Un entraîneur de 1500 mètres ou un entraîneur de 10 000, quand on lui parle de sortie de 3 heures, ça ne rentre pas dans son cerveau, ce n'est pas dans son schéma de pensée. Ouais. Donc, bien souvent, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont conseiller aux gens. Voilà. Quelqu'un qui prépare un marathon en 5 heures, moi, j'applique la règle des 4 cinquièmes. Et donc, il devra faire une sortie longue de 4 heures. Voilà. Donc, son organisme sera au moins allé jusqu'à 4 heures. Et ce qui se passe pour les gens qui tapent le mur, c'est qu'il y a souvent de la déshydratation, de l'usure aussi des réserves en glycogène, parce qu'ils ne prennent pas les 60 grammes par heure. Et puis, musculairement, ils sont détruits. J'ai une amie sur Facebook, là, je ne lui ai pas fait la remarque parce que je me suis dit que ça serait pas sympa, mais peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. Elle parlait des 100 km de Mio qu'elle a couru en 18 heures. J'ai rien contre ceux qui font 18 heures parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ma nièce, qui ne courait pas il y a 6 mois, a fait les 100 km de Mio. Coucou Cathy, elle les a fait en 17h50. Il y a 6 mois, elle ne courait pas un mètre.
Ah ouais.
Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font 18 heures. Ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Et donc, la personne en question, ce n'est pas elle, disait j'ai très mal aux jambes, donc quelques jours pour que l'acide lactique s'élimine et je reprendrai l'entraînement. Mais il n'y a pas d'acide lactique quand tu fais les 100 km de Mio en 18 heures, même en 12 heures, même en 14 heures. Il n'y a pas d'acide lactique. L'acide lactique, c'est pour les coureurs de 1500, de 5000. Même Kipchoge, il ne produit quasiment pas d'acide lactique. Mais par contre, elle va me dire, oui, mais c'est rigolo, Bruno, mais moi, j'ai mal aux jambes. Ben oui, tu as mal aux jambes. Mais ce n'est pas l'acide lactique.
C'est
des muscles qui sont détruits.
Ouais.
C'est de la purée de muscles. Là. Tes muscles, ils n'en peuvent plus. Et voilà. Donc, en fait, le mur, c'est la conjonction de tout ça. C'est mauvaise hydratation, mauvais apport de glucides, et puis musculairement on est détruit parce qu'on s'est mal préparé, on s'est mal entraîné.
Ouais, et puis je crois qu'il y a aussi un côté un peu mental l'avoir en plus. Alors, marathon de Paris, ils mettent carrément un mur avec des briques en polystyrène ici, vous traversez le mur. Alors je sais pas qui c'est qui le met, si c'est des petits plaisantins ou si c'est carrément l'organisation, mais moi je me rappelle en 2019, ici vous passez le mur. Ouais, c'est bon.
C'est un mythe, hein. C'est devenu un mythe. Hein.
C'est devenu un mythe, qui était au départ en plus une publicité. Hein. C'est une invention marketing, en plus la distance pile poil hein, sur le truc, hein. L'histoire en plus, en partie. On a fait un sujet sur le. En effet, il y a un truc là-dessus. Mais quand même, tu vois, il y a cette histoire-là de dire comment je fais, tu vois, par exemple, je cours. Allez, quelqu'un qui a couru un semi, donc toi, tu vas lui dire, t'emmènes. Tout ce qu'il te faut pour manger sur tout le semi, comment il va le gérer?
Alors, l'exemple du semi, c'est tu me donnes un exemple qui est facile à gérer parce que effectivement sur un semi, alors tout dépend, est-ce qu'il va courir son semi en 1h15, en 1h30, en 1h45 ou en 2h. Mais moi, ce que je conseille de faire pour des distances longues, ce qui est facile à faire et que je pratique moi-même, c'est d'emmener une ceinture porte-bidon.
Ouais.
La ceinture porte-bidon et des sticks de boisson, c'est l'assurance d'être autonome et de n'avoir rien à devoir à personne. Et on part avec un bidon qui est rempli, donc on va déjà faire 500 ml, donc on va déjà faire une heure d'effort.
Ouais.
Si on s'est bien hydraté avant et bien hydraté dans les minutes qui précèdent, on peut même aller un peu au-delà des une heure,
ouais.
Parce qu'on peut commencer à boire peut-être 15 minutes après, puisqu'on s'est déjà bien hydraté juste avant de partir. Et arriver au ravitaillement, il suffit d'ouvrir le bidon, de prendre de l'eau, de mettre de l'eau, d'ouvrir le stick, de glisser le stick dedans, refermer le bidon, secouer, repartir. Franchement, quand on l'a travaillé à l'entraînement, et je sais de quoi je parle, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Ça prend pas au-delà d'une minute.
Ouais.
Donc voilà. Et un stick de boisson à emmener, c'est pas très lourd, ça prend pas beaucoup de place. Alors moi, je vais pas raconter d'histoire. Hein. Je l'ai fait. Je suis allé faire une course en Afrique du Sud qui s'appelle les Comrades, et donc la plus grande course d'ultra au monde, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, en Afrique du Sud, c'est une course qui relie Durban à Pietermaritzburg, 25 000 coureurs au départ à chaque fois, c'est une folie, c'est de la folie, retransmission en direct pendant 12 heures à la télé, en Afrique du Sud, c'est une course mythique, hein, 1 million de spectateurs au bord des rues, enfin bref, c'est un truc de dingue. Et donc moi je ne savais pas ce qu'il y aurait comme boisson, donc je suis parti en autonomie complète, j'ai emmené 10 sticks de boisson avec moi. C'est-à-dire que j'ai pris une ceinture un peu plus grande, j'ai emmené mes 10 sticks avec moi. Et toutes les heures, je remplissais mon bidon. Et voilà. Alors évidemment, pour faire un marathon à 3 heures, ça sera peut-être un peu juste. Mais bon, après, il y a aussi les ravitaillements qui sont sur place. Toutes les boissons d'effort des organisations ne sont pas forcément mauvaises. Donc, on peut toujours trouver une solution. Mais même pour des courses très, très longues, on peut partir en autonomie complète. Donc là, pour revenir à ton exemple, je conseille à la personne de partir avec une ceinture porte-bidon. Ça gêne terriblement quand on n'a pas l'habitude d'en mettre et qu'on n'en met jamais. On a l'impression que ce truc, c'est l'horreur, mais une ceinture porte-bidon de bonne qualité, faite par une marque qui maîtrise très bien tous les paramètres et qui connaît ce que c'est que la course à pied, on l'oublie le bidon, on l'oublie très vite. Et franchement, ce n'est pas un souci. Et quand on a l'habitude de le mettre à l'entraînement, on ne pense même plus qu'on a une ceinture porte-bidon. L'inconvénient des gilets, je trouve, c'est que pour recharger, c'est un peu plus... Alors, pardon, j'ai fait une erreur. L'inconvénient des...
Des
sacs d'hydratation, je ne vais pas dire camelback, mais voilà, des sacs avec des poches à eau dans le dos, c'est que pour refaire le plein, c'est compliqué.
Ah, c'est pénible.
sur une course sur route, c'est compliqué. Ouais. En trail, il y en a qui prennent le temps, c'est compliqué. Maintenant, avec les gilets d'hydratation et les gourdes souples, c'est vraiment très facile. Ouais. C'est la même stratégie que le bidon. Hein. Mm. On ouvre la flasque. On met la boisson, on fait le plein d'eau, et puis voilà. D'ailleurs, on les voit faire, alors soit les coureurs, soit les accompagnants sur l'UTMB, on les voit remplir les flasques, mettre la bonne dose de boisson, un stick pour 500 ml. Ça va vraiment très vite, hein. On ne perd pas de temps. Hein. Et puis c'est pas du temps de perdu. Pour moi, c'est même du temps de gagner, parce que ce que l'hydratation va nous apporter et l'apport en glucides pour les kilomètres à venir, mais c'est largement du temps de gagner.
Ouais. Et pour ceux d'ailleurs qui s'inquiètent du poids, moi je trouve que le gros avantage du gilet d'hydratation, c'est que déjà les flasques, on les met devant là, en dessous des épaules. Alors moi j'ai une ceinture aussi, et la ceinture, je sais que si je mets une flasque de 250, je la supporte bien en poids. Si je mets une flasque d'un demi-litre, donc on rentrerait dans ce poids-là. Au bout d'un moment, je sais plus trop où la placer. Quand elle commence à se vider, je suis mieux. Mais quand elle est pleine, c'est un peu pénible, tu vois. Ça se tombe.
Je suis d'accord.
Il faut que je prenne des hanches. Ou faut que je me cale un truc sur les hanches.
C'est vrai que le gilet, c'est bien. Ouais.
Voilà. Et le gilet a cet avantage-là. Et un gilet, ça pèse 60 grammes. Vide, c'est ça. Hein, sans les trucs. Je le dis pour ceux qui se disent c'est lourd. Alors que les fameux sacs d'hydratation avec les poches, etc., la taille de la poche à l'arrière et tout, déjà, c'est souvent plus lourd. Puis il y a l'espèce de tuyau. Bref, je trouve que. Pendant longtemps, tu vois, j'ai vu les gens qui couraient avec des... et puis même sur le marathon de Paris, tu vois, ils en distribuaient des... c'était le cadeau au départ. Moi, en 2019, tu sais, tu avais le sac d'hydratation avec la poche à eau.
Ah ouais, ouais. D'accord.
Et j'ai vu des gens courir avec ça. Et je disais, mais pourquoi ils font ça? Ça me semblait pas logique. Et après, c'est vrai qu'en parlant avec des gens comme toi, en regardant un petit peu et tout, la stratégie du gilet d'hydratation avec les deux faces sur le côté, c'est vrai qu'elle est intéressante. On peut la répliquer, ça, au marathon? Même système?
Oui, tout à fait. Ouais, franchement, je pense que c'est bien. Pour moi, le sac à dos avec la poche à eau dans le dos, c'est envisageable si on ne fait pas, si on ne refait pas le plein en cours de route.
Ouais.
Alors peut-être sur des sorties longues ou j'en sais rien, enfin, peu importe, ça c'est à vous de voir. La stratégie du sac à dos avec la poche à eau dans le dos, c'est vraiment si on ne prévoit pas d'arrêt, parce que sinon c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment beaucoup de temps pour recharger. Mais le gilet d'hydratation. C'est vraiment une belle évolution, une belle invention, et c'est très pratique. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a de plus pratique.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, moi, ça fait quelques années que j'en ai un et que je suis assez content de ça. Bon, j'arrive même à y glisser un petit. On peut y glisser une petite veste dedans, et puis j'arrive même des fois à y glisser des croissants quand je vais chercher la boulangerie. Chut. Mais on dit pas ça parce qu'après, je vais me faire engueuler. J'ai déjà parlé de mes arrêts boulangerie haute bazin dans l'épisode précédent.
J'allais dire, Aude va pas être contente.
Écoute, c'est comme ça. Moi, le boulangerie, des fois, c'est le truc qui me motive. Et on avait parlé de la truffade aussi. Quand tu viens courir en Auvergne, souvent, t'as la truffade en repas de fin. Alors, truffade pendant une course, il y en a qui le font. Toi, non. Parce que toi, tu manges que du liquide. Mais tu sais quand même, par contre, sur certaines épreuves, et je ne sais pas, je parlais de la lassitude qu'on peut avoir tout à l'heure, mais tu as des coureurs, par exemple, qui se disent, au bout d'un moment, j'aimerais bien, alors j'ai une petite pensée pour l'ami Mehdi avec ses saucissons. Il m'a fait rigoler en disant, moi, si j'ai du saucisson, je peux courir, etc. Mais tu vois, ce genre de truc, tu peux avoir, tu sais, peut-être sur des coureurs de 24 heures qui ont une table sur laquelle il y a des trucs qui sont installés. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de mon millefeuille pendant mon 24 heures, mais... Il y a ce genre de choses quand même qui peuvent venir un peu quand on ne le transporte pas ou quand on a quelqu'un et tout, d'avoir ce genre de produit un peu, tu vois, je me rappelle aussi quelqu'un, on parlait en vélo, qui avait un paquet de bonbons, tu vois, sur son vélo, en disant, franchement, dans la nuit, quand ça fait 18 heures que tu roules, sur les bonbons, ça repart. Tu vois, t'as des coureurs qui ont besoin de ce truc-là, toi ? T'as vu ça déjà ?
Oui, complètement, complètement. Alors... on va citer une marque, hein. Ils n'ont pas besoin de nous, mais bon, on va la citer quand même. C'est les bonbons Haribo. Moi, j'entraînais un athlète de l'équipe de France de 24 heures, Rudy Vedlarski. Je lui fais un petit coucou s'il écoute, qui tournait uniquement aux bonbons Haribo. Tout aux bonbons Haribo. Donc, il avait des bananes. Ouais, mais avant d'être en équipe de France. Depuis, ouais. il a structuré différemment. Mais ouais, il tournait tout au bon moment, donc sur sa table de ravitaillement, il y avait des bananes, tu sais, les bananes jaunes, là, les bananes, ouais. Il y avait les fraises Tagada, il tournait qu'avec ça. Et bon, alors, c'est du sucre, hein, et puis il se faisait plaisir. Bon, arrivé un moment, ça c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux, mais ouais, donc... Moi, je vois souvent, et tu as raison, en cyclisme, ils ont leur petit paquet de bonbons Haribo et ils sortent ça pour se faire plaisir. Et après, à la fin, justifie les moyens. Hein, si ça fait plaisir et si ça fonctionne, si ça fait plaisir au cerveau et que ça aide, allons-y. Hein, y a pas de, ce qui compte, c'est l'efficacité. Hein.
Ouais, non, mais c'est vrai, il y a des astuces comme ça, c'est drôle. Alors, quand tu regardes l'ultra-endurance en vélo, en plus, il y a des trucs. On avait reçu Steven Lujarric dans un épisode, mais Steven Lujarric, si vous suivez sur les courses, c'est juste hallucinant la quantité de sucre, les barres chocolatées, les trucs comme ça, mais c'est vraiment hallucinant quoi. La quantité, mais bon, après, il faut voir le temps qui roule et puis il dort même pas, donc il y a des choses comme ça. On avait parlé, tu sais, par exemple, de l'apport de protéines dans certaines disciplines, en alpinisme, pour lutter contre le froid. Il y a tout un tas de stratégies, mais tout ça, on le répète, il faut le travailler, il faut voir si on est capable de le supporter, de bien les manger. De les transporter aussi, parce qu'il y a des trucs qui se transportent facilement et d'autres, c'est un peu galère. Tu vois, moi sur mon marathon, je sais que j'ai transporté des petites boules et des energy balls qui ont fini par s'écraser alors qu'à l'entraînement. Et sur une heure et demie d'entraînement, deux heures, elles passaient. À la troisième heure, c'était tout écrasé. Donc il y a des trucs comme ça. Mais bon, ça fait partie aussi de l'entraînement, faut le dire. Hein. Ça fait partie de l'entraînement de tester sous ces trucs-là et de voir ce qu'on supporte, ce qu'on peut transporter. Même le gel d'hydratation, hein. faut s'habituer un petit peu à le manipuler. Savoir ce qu'on met dedans, comment on le charge, un petit peu, tous ces trucs-là, ça se prépare, quoi.
C'est ça, tout ça, ça se prépare, ça se répète, hein, comme une pièce de théâtre, on va répéter la scène. Ben là, c'est la même chose, il faut répéter, se mettre dans les conditions de la compétition le plus possible, et puis répéter. Mais même, tu vois, pour les gens qui font du trail, l'ultra-trail, quand tous les gestes sont automatisés, hop, je sors mes bâtons, je remets mes bâtons, je déplie mes bâtons, je les range, je vais chercher, parce que je sais que ma barre de pâte d'amande est à gauche, je sais que voilà, mon truc à la soupe de tomate il est à droite, enfin, toutes ces choses-là, quand elles sont automatisées, qu'elles sont pensées, qu'elles sont réfléchies, ben, c'est de l'énergie mentale qu'on va utiliser pour autre chose, et on a besoin de toute son énergie pour ces efforts de longue durée. Alors là, donc, je parle là évidemment de gens qui sont en autonomie complète, mais ben, il faut répéter, il faut travailler, et quand c'est avec un suiveur, c'est la même chose, il faut que le suiveur, sur un 24 heures, ou qu'il connaisse vos habitudes, qu'il sache. On le voit sur l'UTMB, puisqu'on a la chance maintenant que ce soit filmé et retransmis. Quand les sportifs arrivent, ils sont en mode pilote automatique, ils ne réfléchissent pas, c'est la personne qui est là à ses côtés qui lui tend les bidons, qui lui, bon, évidemment, il y a un peu d'échange, on ne veut quand même pas lui enfourner de force ce qu'il n'a pas envie de manger, mais tout est quand même préparé à l'avance, on sent qu'il y a une vraie stratégie, une vraie réflexion et qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation.
Et alors, tu vois, et sur ces longues épreuves, moi, il y a quand même une dernière question que je me pose sur la clarté mentale. Alors, je ne sais pas trop comment le dire, mais tu sais, on avait parlé avec Sylvaine Sissicusso, tu sais, qu'elle tombait souvent dans les courses et que la question se posait d'ailleurs, pourquoi elle pouvait tomber, etc. Est-ce que c'était dû notamment à peut-être la concentration, mais peut-être aussi le fait qu'au bout d'un moment, le cerveau, il est peut-être embrumé par... ces histoires d'alimentation, tu vois, il y a des questions qui se posent quand même, tu vois. Je sais qu'on avait parlé avec certains sur l'apport des protéines aussi, tu vois, sur lutter contre le froid, mais aussi redonner un coup de fouet, empêcher de dormir, tu vois, tous ces trucs-là. Mais c'est quand même difficile à tester, tu vois, parce que à l'entraînement, tu prépares un 24 heures, tu vas faire, t'as l'habitude de faire des sorties de 3h30, 4h. Mais tester le truc de dire qu'est-ce qui se passe quand ça fait 18 heures que je dors, que je cours. C'est quand même difficile à tester. On sait qu'il y a des trucs qui marchent ou pas, ou comment on peut faire, ou c'est vraiment que l'expérience?
Bah, l'expérience compte beaucoup. Hein. Quand on se rappelle des premières courses de François Daen sur des ultra-trails, où il débutait la fleur au fusil, il partait à fond, il avait aucune stratégie. Bon, voilà, maintenant on voit François, il maîtrise ça sur le bout des doigts. Donc l'expérience, forcément, ça compte énormément. Concernant les protéines en particulier, ben moi je sais que Anthony, on avait beaucoup discuté avec Anthony là-dessus, il disait que même si les protéines ne sont pas forcément utiles pendant l'effort, mais elles le sont, elles sont aussi intéressantes à inclure dans l'hydratation et dans l'alimentation pour anticiper la récupération. Ouais. Parce que musculairement, on parlait tout à l'heure de jambes de bois ou de muscles détruits. ou 30e ou 35e d'un marathon, c'est la même chose sur des longues distances. Il arrive un moment où il y a vraiment des lésions musculaires importantes. Donc, l'apport de protéines, c'est important pendant l'effort et aussi en anticipation pour la récupération. Moi, je prends une boisson qui contient beaucoup d'acides aminés ramifiés, les fameux BC2A, là, ouais. et voilà. Et je sais que cette boisson, elle est bien dosée avec des protéines de très bonne qualité, parce que la qualité des protéines est hyper importante. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on achète. Et moi, je fais comme ça. C'est comme pour les glucides. Je ne réfléchis pas, je fais confiance aux professionnels et j'inclus des acides aminés raminés, des protéines dans ma ration avec des boissons qui sont toutes faites et préparées pour ça.
Tu sais que ça, c'est un gros débat quand même. Ce sujet-là, j'avais un coach qui me disait « Mais si, il faut absolument en prendre. Tu verras, tu vas récupérer beaucoup plus vite. Tu vas courir comme un lapin, etc. Et » Et puis, j'en ai parlé à d'autres. Ils m'ont dit « Ouais, ben moi, je ne vois pas l'effet. » Donc toi, tu confirmes, en fait, fais partie de, notamment sur la récupération, parce que j'ai souvent dit d'ailleurs que l'histoire de la meilleure récupération, c'est quand même de mieux gérer la partie sortie de course et tout, surtout l'entraînement, je trouve, parce que bon, la course, c'est toujours un contexte particulier, mais récupérer après une grande sortie, une sortie longue, c'est quand même bien, parce qu'il faut enchaîner après les semaines d'entraînement, donc c'est important de bien récupérer après ces fameuses sorties longues, d'où l'importance aussi de bien manger. Il n'y a pas qu'une question d'entraînement, quoi, il y a une question de pouvoir enchaîner. Donc, stratégie BC2A, toi, pour toi, c'est un truc qui marche bien, quoi.
De toute façon, je pense que c'est difficile de dire que ça ne fonctionne pas, puisqu'on sait que notre organisme a besoin de protéines. D'ailleurs, les protéines sont parfois une source aussi de carburant.
Ouais.
En fait, on appelle ça la troisième fois. Il y a trois carburants, les glucides, les lipides. Et quand on n'a plus de glucides, plus de lipides, quand on est vraiment au bout du bout du bout, c'est pour ça que des gens parfois perdent beaucoup de poids. Les protéines deviennent une source de... Alors, ça ne fonctionne pas bien. Hein. Le corps, il n'est pas fait pour ça. Ouais. Ça fonctionne même très mal. Mais voilà, quand il n'y a pas d'autre solution, le corps, il va taper dans les réserves musculaires pour transformer les protéines et en faire du carburant. Donc, un apport de protéines de bonne qualité est indispensable à l'organisme. Donc, moi, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Je n'ai pas... vraiment non plus lu d'études là-dessus. Je suis peut-être un peu naïf, mais je me dis que comme on a besoin de protéines pour récupérer musculairement, si on en apporte, elles seront forcément utiles. Alors oui, ça serait mieux peut-être de prendre des œufs coques de bonne qualité, de manger un bon steak avec un verre de vin rouge. Oui, ça c'est bien, ce sont des bonnes protéines, mais voilà, en course, c'est pas possible. Après course, c'est pas non plus toujours possible. Donc voilà, un apport de protéines de qualité, même si sous forme soluble, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, c'est pour moi vraiment utile, oui. Bon, il n'y a pas de débat.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu me fais un rebond par rapport à l'épisode qu'on a enregistré avec Odd, que tu n'as pas écouté, parce que moi, je suis le seul à avoir écouté cet épisode au moment où on enregistre. On parlait du cheat meal, et je lui disais, mais le cheat meal juste après la course, elle m'a dit, c'est pas une bonne idée. Elle me dit, d'abord, il faut prendre des choses qui vont réparer le muscle, etc. Elle me dit, le cheat meal, on le décale au lendemain, au surlendemain, tu vois, le truc comme ça. Et en fait, ton histoire des BC2A, bah, vient exactement corroborer ça en disant, bah tiens, avec une boisson qui va permettre aussi quelque chose qui permet d'être bien utilisé par le corps et pas que juste un truc gras ou des choses qui sont compliquées à digérer, mais des choses qui sont prévues pour ça, pour la récupération, ça aide à la récupération. Et ensuite, elle m'a dit le conseil, elle m'a dit ensuite, dans la suite de la semaine, oui, il y a un repas qui peut être vraiment pur plaisir, etc. Et où là, on va aller prendre les fameux burgers qui nous plaisent, les frites, etc. Mais pour la récupération, on a vraiment des vrais repas qui aident à la récupération. Donc tu vois, vous faites des rebonds, en fait. C'est drôle comme ça, l'un l'autre.
C'est le principe de la fenêtre métabolique. Le corps humain est bien fait. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps. Le corps humain, il est bien fait. On a une machine qui est quand même exceptionnelle. On court à une vitesse et la foulée devient efficiente. Comme ça, pas par l'opération du Saint-Esprit, mais presque. Et quand on a épuisé ses réserves, le corps, il a une appétence, il a une capacité à absorber tout ce dont il a besoin dans les heures, dans les minutes qui suivent l'effort. Mais je veux dire, on ne découvre pas quelque chose de... C'est d'une logique. C'est logique. C'est tout à fait logique. Donc, que pendant une demi-heure, une heure, on soit attentif à ce qu'on mange pour mieux récupérer, ça me paraît tellement évident que pour moi, il n'y a pas de débat. Après, il m'arrive, après certaines courses, de boire du champagne parce que j'adore le champagne et je suis un champenois. Et c'est pas forcément bon pour la récup, mais c'est bon pour mon cerveau. Et puis les circonstances font que, ben voilà. Mais, enfin, je veux dire, moi, je recommande pas de sucer des feuilles de salade et d'avoir une vie de moine. Mais il y a quand même des bases sur lesquelles il faut s'appuyer et qu'on ne peut pas nier. Mais on fait tous des petites dérives. Voilà, on n'applique pas forcément toujours parfaitement bien les choses. Mais ce qu'on doit dire et le discours qui doit passer, c'est qu'est-ce qu'il est bien de faire. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça.
Et puis rappelons hein, d'ailleurs que tout le monde essaye de faire au mieux qu'il peut. Hein. Et que d'ailleurs, c'est des zones de progrès pour, et je le répète, hein, si vous écoutez l'épisode avec Félix Bourg, malgré il court à une vitesse incroyable, mais sa zone de progrès à lui, c'était justement l'alimentation à l'époque, hein, quand on l'avait eu. J'en avais parlé notamment avec. Alors, je sais plus avec qui on avait dit que chacun a des zones de progrès, que certains ont d'abord axé sur leur capacité de vitesse, respiratoire, etc., et pas trop sur l'alimentation, et puis que quand ils ont du mal à arriver à progresser sur un domaine, et bien ils vont aller taper sur un autre domaine, etc. Et ce qui surprend peut-être beaucoup les gens, c'est qu'il y a plein d'amateurs, ou d'amateurs éclairés, notamment de ceux qui écoutent le podcast, qui des fois ont une alimentation très cadrée, très structurée, qui font tout ce dont on a parlé, et qui font beaucoup plus que des athlètes de plus haut niveau, mais qui ont d'autres capacités de départ. Qui ont d'autres entraînements, qui ont développé d'autres capacités et qui seraient très surpris hein, de voir un petit peu les écarts. Moi, j'étais frappé dans le sport de niveau, notamment dans le foot, par exemple, le rugby. Oh, des athlètes qui sont dans les meilleurs mondiaux quand tu vois ce qu'ils mangent. Et quand tu vois à côté l'amateur qui fait un trail, quand on se met la pression pour ce qu'on mange, c'est vraiment incroyable. Mais ça fait partie, chacun aussi. Je pense qu'il y a un côté rassurant aussi. Tu vois, tout ce que tu viens de dire, de tester l'entraînement, de savoir que ça va passer, ce qui va passer, etc., c'est très rassurant de se dire j'ai fait le mieux que je pouvais pour préparer la course.
Ouais, c'est ça. C'est alors une fois de plus j'ai pas révisé mes classiques, mais c'est le tennisman qui disait la confiance. Enfin, en fait, il faisait un lien entre la confiance et la préparation. La confiance, ouais. Elle se crée, elle se construit sur une bonne préparation. Et c'est vrai que quand on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on a mis en place toutes les bonnes stratégies, on arrive confiant le jour J. Et ça, c'est bien d'arriver en confiance. C'est quand même quelque chose qui est important de se dire, bah voilà, maintenant les dés sont jetés, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et je suis d'accord avec toi, il y en a qui, des sportifs amateurs qui sont vraiment très pointus et très bons sur l'alimentation, qui se donnent vraiment les moyens de réussir et qui ne réussissent pas forcément toujours bien. Et au niveau de l'entraînement, c'est la même chose. Je parlais d'entraînabilité. Il y a des gens qui s'entraînent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ne sont pas professionnels et qui passent un temps fou. Ouais. Et ces gens-là sont, quelque part, sont admirables.
Ouais. J'ai un épisode de Kilomètre 42 sur quelqu'un qui prend un Ironman qui est amateur 25 heures par semaine.
D'entraînement pour y arriver.
Un vrai boulot. Hein. C'est un vrai boulot. Et tu vois, le tennisman en question, et comme ça, on va boucler parce que j'ai sorti une petite note, c'est Arthur Ashe. Tu vois, qui disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Voilà. Dans mon petit Arthur Ashe illustré, j'en ai plein de citations d'Arthur Ashe.
Merci Bertrand. C'est un
grand plaisir. Tu vois, c'est toujours le truc. Et je savais que c'était lui, mais je voulais avoir la citation exacte. Parce qu'après, on déforme les citations, on les sort de leur contexte, et puis il y a des trucs, après, on se dit, merde,
mais c'était Elle est belle, cette phrase.
Elle est vraiment très belle, cette phrase. Eh bien, écoute, Bruno, c'était encore un plaisir. Je t'ai plaisir pas demandé si tu préparais quelque chose, si tu étais en couple, enfin, je sais pas, tu prépares quelque chose, là ou...
Non, il n'y a rien de vraiment prévu. Peut-être l'année prochaine, un full... en triathlon, mais un full, les foules qui me font rêver. Donc moi je suis allé directement sur Embrun, donc du coup c'est vrai que maintenant ça va être compliqué, mais voilà, il y a des belles épreuves en France comme l'Altriman par exemple, qui me font rêver, qui sont des épreuves où il y a des parcours cyclistes qui sont beaux et difficiles. Peut-être ce genre de choses, mais maintenant à 63 ans. C'est le plaisir avant tout, c'est la compétition et la performance n'ont plus aucune importance.
Ouais. Bon, ben rappelons quand même
tout que ça n'est qu'un prétexte.
L'Embraman, tu commences le triathlon par l'Embraman, enfin ou presque. C'est c'était je mettrai un lien vers l'épisode dont on avait parlé justement, on avait parlé de tout ce que tu avais fait comme préparation là-dessus. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai appris plein de trucs et puis ça permet de discuter des stratégies, de refaire plein de rebonds. Et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on a fait plein de rebonds sur plein d'invités, sur plein de gens, dans tous les trucs. Donc maintenant, je mettrai tous les liens pour aller se nourrir parce que vous aurez les stratégies de certains qui courent vite, certains qui courent longtemps, certains qui font les deux. Voilà, et donc on va pouvoir tout boucler. Et puis, bah, bien entendu, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On va continuer à explorer un petit peu toutes ces thématiques. Et d'ailleurs, je crois que l'invité t'a cité le nom tout à l'heure. Tu le sais pas, mais je crois bien, tu vois, il me semble avoir vu dans les plannings d'enregistrement qu'il se pourrait que la prochaine invitée t'ait cité le nom. Bon, bref, écoute, ça sera la surprise pour tout le monde. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je vais éviter de le dire, mais je crois que tu l'as cité. Allez, sur ce, je te souhaite encore une belle journée. À très bientôt. Hein. On aura bien d'autres sujets à aborder un de ces jours. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. À bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.